Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, aujourd'hui, avec Valentine Saboureau, nous allons parler de Gina Reinhart, une milliardaire australienne très mécontente de son portrait réalisé par le peintre Vincent Namatjira, exigeant que l'œuvre ne soit plus exposée. Elle a réussi l'exploit de décupler l'intérêt qu'on lui porte.
Bonjour, bonjour à tous. Nous allons en effet parler d'une femme puissante et immensément riche, mais c'est aujourd'hui une actualité bien particulière qui nous occupe, puisque Gina Reinhart, première fortune australienne, fait en ce moment le tour des réseaux sociaux en raison d'un portrait controversé qu'elle souhaite faire décrocher de la National Gallery of Australia, quoiqu'il soit pour l'instant exposé à Adélaïde. L'œuvre critiquée a été réalisée par Vincent Namatjira, artiste reconnu et surtout premier peintre aborigène à avoir reçu le prestigieux prix Archibald.
Gina Reinhart est une figure publique elle-même controversée.
On peut en effet dire ça. Née Georgina Hope Hancock le 9 février 1954 à Perth, elle est aujourd'hui à la tête de Hancock Prospecting, une entreprise minière héritée de son père. Alors d'une société en difficulté, elle a créé un véritable empire, affichant un revenu net après impôt de 5,039 millions de dollars en 2023. Implantée dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale, elle est spécialisée dans la recherche et l'exploitation du minerai de fer, mais pas que. Et c'est une activité complétée par ailleurs par un investissement dans la production de viande bovine. Elle est aussi partenaire notable de l'entreprise Rio Tinto, connue pour avoir détruit des sites aborigènes sacrés et avoir perdu une capsule radioactive pendant un transport. Alors évidemment, la fortune n'est pas la raison qui lui vaut uniquement des piques et des inimitiés, ce sont surtout ses prises de position qui font polémique. Elle milite pour l'indépendance de son État, comme son père avant elle. Elle est notoirement climato-sceptique et elle est très critique du système australien. Elle ne se prive d'ailleurs pas de faire entendre sa voix dans le débat public. Elle vient par exemple très récemment de conseiller au gouvernement de baisser les taxes et impôts et de réduire drastiquement l'immigration pour régler les problèmes de logement. À cet égard, elle partage en partie les vues de Peter Dutton, le leader des Liberals, dont elle est proche. J'ajoute qu'elle a un temps investi de son temps et de son argent dans les médias, notamment Ten ou Fairfax.
Mais elle est aussi très investie dans les œuvres caritatives.
Absolument, et on pourrait faire une liste longue comme le bras. Elle soutient beaucoup la natation de haut niveau, mais aussi la lutte contre le cancer ou les violences domestiques. Elle a également participé à la rénovation de plusieurs hôpitaux. Notez par exemple qu'en 2023, elle a versé 16 millions de dollars au Royal Flying Doctor Service, contribuant largement aux soins prodigués dans les régions les plus reculées du pays. Tout cela est évidemment à mettre à son crédit, même si elle a parfois été capable de retirer son sponsoring en un claquement de doigts. En 2022, elle a supprimé d'un jour à l'autre 15 millions destinés à soutenir le netball, certaines joueuses ayant émis des réserves sur le fait de porter un maillot aux couleurs de Hancock.
Et ce portrait, alors pourquoi ne lui plaît-il pas ?
Alors elle le juge certainement peu flatteur puisqu'elle a demandé qu'il ne soit pas exposé. Vous l'avez peut-être vu, on observe sa tête de trois quarts et la partie supérieure de son buste. Son teint est très rose, ses yeux décalés très bleus, son front très dégagé et haut. On peut aussi deviner un double menton. Elle porte un haut blanc plutôt sobre. C'est un portrait parmi 21 du même format qui représente dans leur ensemble des personnalités du monde entier, de la reine Elisabeth II à Jimi Hendrix, en passant par Scott Morrison. Interrogé sur cette polémique, le peintre a déclaré « Je peins le monde comme je le vois. Les gens ne sont pas obligés d'aimer mes peintures, mais j'espère qu'ils prendront le temps de regarder et de se demander « Pourquoi ce type aborigène peint-il ces personnes puissantes ? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ?» Vincent, Namjira, je le rappelle, a plusieurs fois été nominé pour le Archibald Prize qu'il a gagné en 2020 avec un portrait du joueur de footy Adam Goods intitulé « Stand strong for who you are ». L'artiste de 40 ans se présente comme un portraitiste subversif. Il est présenté comme suit sur le site d'art Ocula. Peignant à grands traits à l'acrylique, Namjira exagère souvent les caractéristiques physiques pour créer des portraits qui semblent diluer le sérieux de l'histoire en distillant les dynamiques puissantes d'un moment historique grâce à son utilisation de l'humour.
Qu'est-ce qui va se passer à présent ?
Eh bien, des nageurs olympiques se sont emparés du sujet en joignant leur demande de retrait de l'œuvre à celle de Gina Rinehart pour ne pas gêner leur mécène. Pour l'instant, sans succès, je vous rassure. Je dirais même que cette polémique a eu tout l'effet inverse. Le portrait a envahi les réseaux sociaux et cette histoire a même été reprise à l'international. En témoigne cet extrait de The Late Show avec Stephen Colbert. On écoute.
I believe the artist really captured her expression at the moment she saw this portrait.
Une collecte est organisée en ce moment même pour exposer l'œuvre sur Times Square. C'est un retournement de situation suffisamment exceptionnel pour qu'on en parle aujourd'hui. En attendant, vous avez, vous, en Australie, jusqu'au 21 juillet 2024 pour voir le fameux portrait de Gina Rinehart à l'Art Gallery of South Australia à Adelaide.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Raphaël avec sa chanson Heursup. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
J'ai le plaisir de parler à Marie-Claude Djibaou, que j'ai rencontrée il y a 2 ans, que je suis très très heureuse de retrouver. Marie-Claude, vous êtes ici avec un but tout à fait spécial.
Oui, je suis là pour une semaine à l'Alliance française pour faire découvrir à tous ceux qui veulent le projet du Centre culturel Jean-Marie Djibaou.
Alors, on en parlait justement il y a 2 ans. On était au début de la fondation de ce projet. Alors, premièrement, est-ce que vous pourriez présenter ce projet et puis nous parler un petit peu des développements ?
Bon, alors je vais faire un petit retour en arrière. Donc, 1975, Mélanésia 2000 en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Djibaou organise ce festival un petit peu pour parce qu'il y a une situation, la colonisation, le peuple Kanak qui est déprimé, qui s'enfonce dans l'alcool, et donc il y a nécessité de créer un événement qui mobilise le peuple. Donc, Mélanésia 2000, en fait, c'est une quête d'identité. C'est un peuple qui prend conscience qu'il a une culture qui lui est spécifique. Certes, il est français parce que il est à la colonisation, mais promotion, valorisation de la culture, le patrimoine qui est disséqué et que l'on remet pendant une semaine à l'hôtel, donc dans la ville, par le biais d'une grande manifestation, Mélanésia 2000.
Donc, au départ, c'était Jean-Marie lui-même.
Voilà. Donc, pendant une semaine, des danses, des chants, les généalogies, l'expression d'une culture bien vivante, de l'artisanat, de la culture. Et puis, d'abord pour le peuple kanak, une prise de conscience d'une identité, mais aussi pour les autres, donc les non-kanaks du territoire, la prise... la première fois, une manifestation... Une grande manifestation kanak dans la ville. Ils prennent conscience qu'il y a un peuple et donc c'est une découverte. À part bien sûr les chercheurs qu'on a l'habitude de voir et puis qui viennent, qui collectent. Oui.
Et puis dont les œuvres peut-être ne se répercutent pas.
Oui, en fait, bon, c'est vrai, ils viennent, ils font des recherches, ils font de la recherche. Ça sort par le biais de gros volumes volumineux, quoi.
Qui se retrouvent sur le rayon des bibliothèques.
Pas, oui, et puis qui ne sont pas accessibles à tout public, quoi. Donc, 1975, ensuite, il y a donc ce réveil de la population kanak. En même temps, pour Jean-Marie Tjibaou, c'est la revendication du peuple kanak, son droit inné et actif à son indépendance, qui est reconnue donc à Nainville-les-Roches. Et puis, la suite, on la connaît, quoi, les bouleversements, parce que la Nouvelle-Calédonie étant toujours terre française, les vagues viennent jusqu'à nous et, je pense qu'il y a eu un essai d'offrir ce qu'était la culture, ça n'a pas été compris. Les gens se sont braqués, il y a eu les événements. Ça a été terrible, quoi, parce que l'oppression, mais 1988 voit la fin des événements avec la signature des accords de Matignon. Et dans cette loi référendaire qui régit le territoire, il y a la mise en place de l'Agence de développement de la culture kanak.
Et je crois que c'était il y a environ 2-3 ans, donc voilà. On était encore au balbutiement, disons, de...
Vous voyez... Le centre va donc est en cours de construction aujourd'hui. Il va s'ouvrir l'an prochain, en mai 98. Et effectivement, on peut se rendre compte que ce projet a beaucoup, pas traîné, parce que c'est un projet qui devait mûrir, mais qui est un petit peu spécial. C'est un projet du président de la République. Il a un financement intégral donc de l'État français, mais il a des règles bien précises dans sa mise en route. Donc il y a l'avant-projet, il y a toute une procédure qui a été longue à établir, parce que malgré tout, le bureau de Renzo Piano, qui est donc le lauréat, l'architecte qui construit le projet. Il est à Gênes, il en a un à Paris, il y a les événements politiques qui continuent à faire l'actualité de notre pays, et voilà quoi.
Et en Italie aussi d'ailleurs.
Et en Italie aussi. Voilà, mais le projet donc est en cours de réalisation, c'est un projet qui est en train de devenir réalité, et donc nous sommes ici pour en parler, ici à Melbourne, pour... utiliser cette opportunité pour faire de la sensibilisation autour de ce projet.
Une chose, on a dit que le centre était en cours de construction maintenant, mais les activités, elles, ont débuté dès le début.
Alors, le centre, c'est vrai qu'il... officiellement, il démarre depuis 1991, mais en fait l'agence existe avec la loi référendaire, et dans la loi référendaire, donc les actions de l'agence sont bien spécifiées. On est là pour promouvoir la culture, on est là pour accompagner la culture dans ses formes nouvelles d'expression, et puis on est là aussi pour mener des relations avec les pays de la zone, donc du bassin pacifique. En 91, sous la proposition donc du premier ministre de l'époque, l'idée de construire un centre culturel. L'idée est accueillie par le président de la République qui accepte d'en faire son projet. Et puis, il a fallu penser un centre, pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Donc, il y a toute une réflexion qui a été menée des consultations en direction des politiques, des différentes associations. Et petit à petit, parce que l'agence a aussi fonctionné, nous avons imaginé le contenu. Bon, c'est sûr que quand on regarde le contenu du centre culturel aujourd'hui, on réalise que c'est un centre culturel qui n'a pas tout à fait la même vocation que les centres culturels comme on pourrait les trouver en France. Ou... Bon, c'est vrai qu'au départ, le centre, il est né d'un déséquilibre, l'inexistence d'une expression culturelle kanak. Donc, il y a nécessité d'accompagner aujourd'hui nos groupes.
Donc, finalement, c'est un centre culturel, mais c'est le contraire d'un musée. Il y a des archives, certes, mais c'est surtout
c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui, mais dans le centre quand même, dans son organisation et puis même dans les actions qui y sont menées, il y a quand même trois villages qui ont une fonction bien précise. Le premier village, c'est quoi? C'est un endroit où tout Kanak, quand ce premier village, il y a trois cases. Une case que l'on appelle Kanaké, c'est là où celui qui arrive, territoire français d'Océanie, oui, mais ici c'est les Kanak. Il rentre, 8 minutes, il est branché sur quelque chose et il est dans le monde Kanak. Il a des sons, il a des rites, il a des images, c'est un bain.
Il baigne.
Parce qu'il faut le mettre dans le sujet. Il y a une case qui est à côté. Bon, on les a nommés avec des noms de chez nous parce que, il y a une autre case qui s'appelle...
L'immersion, finalement.
Voilà, qui s'appelle Dinou. Cette case-là, elle est la case où... je crois que c'est la plus grande. C'est la plus grande. On va y trouver dans cette case des objets du Pacifique qui nous ont été... qui vont nous être cédés à la manière traditionnelle, dans la manière traditionnelle, et qui sont là pour faire la relation entre la Nouvelle-Calédonie avec les pays du Pacifique. C'est-à-dire, nous on est des Noirs, la Mélanésie, les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Salomon, etc. Puis après, il y a une autre case à côté qui est un petit peu un espace où, pour lequel on a prévu la venue d'objets qui sont actuellement dans des musées européens, internationaux, enfin de par le monde, et puis que l'on a sollicité pour des dépôts.
Et que vous allez récupérer.
Et que nous allons, qui vont venir pour un temps bien défini et qui vont retourner. Mais c'est pour que ça soit quelque chose qui tourne. Parce qu'on se dit aussi que la culture kanak, c'est bien qu'elle soit présente dans tous les musées de la planète.
Donc c'est une ouverture aussi sur le monde. Hein.
Ben
c'est,
oui,
une ouverture.
C'est quelque chose qui est bien inscrit dans le... Mais ça se retrouve aussi au niveau de l'architecture du centre. Si vous avez regardé un petit peu, Renzo Piano a pensé le centre un petit peu comme un challenge entre le traditionnel et la modernité. À partir de la structure traditionnelle, il a fait des formes... on n'a jamais vu de case de 28 mètres de haut, mais la plus haute, elle sera à cette hauteur-là. Avec les techniques d'aujourd'hui, des matériaux d'aujourd'hui. Non, c'est quelque chose de fantastique, le centre.
Ce qui est intéressant, c'est que ce soit un Italien qui a été choisi.
Ben,
encore cosmopolitisme, ouverture.
Oui, non, mais c'est parce que les grands projets de la présidence de la République, ils ont un fonctionnement, des règles de réalisation bien précises. Donc, on a dû lancer un concours international. Donc, on a eu une sélection d'architectes du monde entier, où on a quand même exigé qu'il y ait une représentativité des gens du Pacifique. Et puis, on a sélectionné 10 d'entre eux qui sont venus sur le territoire que l'on a briefé et qui sont repartis. Puis après, la copie, c'était... on a sélectionné trois architectes, et donc, avec le président de la République, François Mitterrand, nous avons retenu... j'ai retenu Renzo Piano, qui me paraissait le plus beau.
Donc c'est votre choix, Marie-Claude Gibaud.
Nous avons choisi ensemble, avec le président.
Il ouvre l'année prochaine, le centre. Alors, maintenant, j'aimerais, si vous le pouvez, donner un message, lancer un message à nos auditrices et nos éditeurs, et aussi à des visiteurs en puissance en Nouvelle-Calédonie dans les années à venir.
Ben moi, je leur dis déjà que donc l'an prochain, c'est l'inauguration officielle du Centre culturel Jean-Marie Gibaud, que tous les peuples du Pacifique et du monde entier sont les bienvenus. Nous avons pensé, et Jean-Marie Chibaou en premier, a pensé qu'il fallait que l'on essaie de faire partager ce que la culture kanak avait d'universel avec tous les peuples de la Terre. Donc, bienvenue à vous tous.
Jean-Marie Chibaou, survit dans les cœurs.
Oui, je pense que au travers de tout ce que nous faisons, il survit. Et puis je dis aussi qu'il ne faut pas que ces gens-là qui sont tombés. Bon, il y a eu lui, il y a Yewene, Luama Choro, Ataï, et puis tous les autres. C'est des gens qui sont morts parce qu'ils étaient différents. On est français aujourd'hui, mais on est d'abord kanak. Et on est fiers d'être kanak. Et puis on a notre... Il n'y a pas lieu de se taire sous prétexte qu'on ne sera jamais les Français de France.
Marie-Claude Dupaou, merci.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tu voulais comme les oiseaux t'envoler, merveille fermée, soleil dans le dos, merveille fermée, soleil sur la peau.
Comme avec le temps des fleurs. Partie de notre sélection musicale pour ce mois de mai. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et bien aujourd'hui dans le programme en français, on va parler à Dominique Giraud. Il est président, encore président, je crois, de la Chambre de commerce, la FACCHI, dans le Victoria. Bonjour Dominique.
Bonjour Christophe.
Alors je dis encore président parce que vous êtes sur le départ. Après un bon petit moment quand même en Australie. L'Australie, c'est un pays que vous avez appris à aimer. Vous êtes même devenu australien, je crois.
Australien en décembre dernier. Et ça fait maintenant presque 6 ans qu'on est en Australie. Donc c'est un pays qu'on aime beaucoup. Mmh. Et j'ai ma sœur ici depuis 20 ans, j'ai ma cousine à Melbourne, donc c'est un pays qu'on aime énormément.
Et c'était important d'avoir la nationalité avant de partir, hein, quand même, ça permet toujours de revenir, c'est quand même pas mal.
Alors, on a pratique. La nationalité pour nos deux filles aînées, surtout qui finissent leurs études à l'Université de Melbourne. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour nous de revenir en Australie dans, mm-hmm. dans les prochaines années.
Alors, on va parler un peu du travail de la Chambre, parce que c'est donc la FACCHI, d'autres disent la FACCHI, il y a plusieurs façons de le lire en tout cas.
J'ai même entendu FACCHI.
La FACCHI, voilà.
Alors, la plupart des membres parlent de la FACCHI.
D'accord,
ça
la FACCHI.
C'est un peu italien. Et, mais...
Il y a deux C hein, quand même, ouais. Donc c'est cohérent.
Ouais.
Le rôle de cette Chambre a quand même pas mal évolué au gré du temps. Vous êtes passé à travers le Covid, enfin, ouais. C'est quand même passé pas mal de choses. Cette Chambre, elle est importante pour le lien à la fois, le tissu ici avec les Français. Pas mal de Français sont expats, travaillent dans les entreprises et c'est important d'avoir ce tissu social presque.
Oui, c'est un énorme tissu à travers l'Australie. Donc, c'est 450 membres. C'est un réseau de 18 000 personnes à travers l'Australie. Et c'est une communauté qui rassemble énormément d'entreprises, de grands groupes français, des PME et dans toutes les industries qu'on retrouve en Australie.
Une association, je ne sais pas comment on peut le donner, mais c'est en tout cas un organisme qui existe depuis très longtemps en Australie.
Oui, tout à fait. Ça a été fondé en 99, pardon. Mm-hmm. C'était à l'époque où...
Avant même la fédération du pays.
Avant la fédération, et c'était à l'époque où l'industrie de la laine était en pleine boom. Et il y avait des échanges commerciaux entre la France et l'Australie. Mmh. Donc là, on a fêté les 125 ans de la FACCHI en mars dernier avec le nouvel ambassadeur Pierre-André Imbert. Donc c'était un très bel événement. Mmh.
Ouais. Et le rôle du président, parce que c'est quelque chose que vous avez exercé depuis un petit moment, c'est quoi le rôle du président d'une chambre de commerce, en tout cas pour le Victoria, vous étiez sur le Victoria.
Tout à fait. Alors déjà au niveau national, on a un président fédéral qui anime le board de directeur fédéral. Au niveau du local, le président du chapitre anime 14 counselors et puis une petite équipe opérationnelle pour organiser les événements.
Alors c'est il y a une hiérarchie, hein, il y a le président, il y a les consoleurs après ont des certaines missions.
Tout à fait.
Ça veut dire que le tissu social il est totalement couvert. Les entreprises, en tout cas les relations franco-australiennes sont totalement couvertes.
Oui, parce que dans les consoleurs, on essaie d'avoir toutes les industries représentées et en commençant par la partie plus diplomatique. Donc on a dans les consoleurs Myriam Boisbouvier-Wallier, mm-hmm. qui est la consul honoraire générale de France à Melbourne. On a ensuite la vice-présidente Pascale Toussa qui couvre toutes les PME. Et on a différents dirigeants d'Engie, de Keolis Downer, de Mazars, de Total Energy, de Transdev, donc qui couvrent énormément d'industries.
Mmh. Et après, il y a les membres, bien entendu.
Il y a les membres.
Donc on peut devenir membre si on est intéressé, on peut être membre individuel. Alors on n'est pas là pour faire la publicité hein, de la Chambre de commerce, c'est ouais. juste pour expliquer comme ça fonctionne. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt, peut-être que si quelqu'un se demande pourquoi je devrais être membre de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-australienne, pourquoi ?
Pourquoi ? Alors c'est vrai que c'est, au niveau national, c'est un réseau exceptionnel, donc 450 membres sociétés essentiellement. Et 18 000 personnes, et c'est un réseau de networking qui est exceptionnel. Donc il y a beaucoup de nos membres qui sont contents de pouvoir concrétiser des deals, des deals commerciaux avec d'autres membres. Et après, au-delà de cette relation de networking avec les membres, on a des événements. Donc dans le Victoria, on fait une soixantaine d'événements depuis 3 ans, donc une vingtaine par an. Et c'est des événements de très grande qualité qui permettent à chacun d'y retrouver son compte.
Notamment un que je vais animer d'ici quelques
oui.
semaines.
Merci encore à vous.
Non, mais ça va être un plaisir. On parle de vélo et de France. Hein. Qu'est-ce que
ouais.
je peux que être content par rapport à ça.
Ouais.
D'un point de vue personnel, pour vous, c'était important de joindre justement cette membre au départ, de faire partie de ce tissu. Vous êtes sûrement fait des amis, peut-être je vais pas dire des ennemis, mais bon, c'est quelque chose de vivant aussi la chambre. Donc,
ouais.
Donc est-ce que pour vous c'était important dès le départ, quand vous êtes arrivé ici, de vraiment jouer un rôle dans cette chambre?
Alors, avant d'arriver, j'étais conseiller municipal dans une ville à côté de Montpellier et j'ai apprécié le fait de m'impliquer dans la communauté dans laquelle je vis. Et quand j'ai rencontré les différents councillors de la FACI, je me suis dit, bah, tiens, ce serait sympa de rejoindre la FACI en councillor. Et suite au départ de la dernière présidente qui est partie en Hollande, j'ai eu différents appels du pied pour prendre la suite et mmh. lever la main pour en tant que futur président.
Et il y a des corrélations entre un conseil municipal et une chambre de commerce. Sur certains aspects, ça va fonctionner un peu pareil.
Complètement, parce que le conseil municipal est dirigé par un maire et prend les décisions pour que ensuite l'équipe opérationnelle mette en place et exécute et organise tous les événements.
Alors vous n'avez pas que la casquette de la Chambre de commerce, on en parle beaucoup là, mais vous faites aussi partie de Vinci Énergie. Et on parle juste rapidement quand même de Vinci Énergie et des entreprises françaises, qu'on va remettre votre casquette de la Chambre de commerce là. Dans l'énergie, on sent qu'il y a un influx français quand même. On
ouais.
sent que c'est,
ouais.
c'est une des technologies en France, entre guillemets, qu'on maîtrise et qu'on maîtrise l'exportation des savoir-faire et de tout ce qui tourne autour de cette industrie.
Ben, l'énergie, les groupes français qui sont en Australie depuis des années. C'est des groupes comme Engie, Neoen, Total Energy et bien d'autres. Et Vinci Energy en fait partie. Et ça illustre le marché colossal qu'il y a en Australie pour les 20-30 prochaines années, à la fois dans les renouvelables, mais aussi dans les infrastructures électriques, les réseaux électriques. Et des grands projets de batterie, de stockage d'énergie. Donc c'est un énorme marché.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
Le footing asthmatique à courir la carrière sur un fil, on traverse alors sur un vent de travers parce qu'on reste. Pour qu'on reste ce que nous sommes.
Hervé avec Sémaphore. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Mais pourquoi l'Australie justement? Parce que l'Australie a peut-être a pris du retard sur sur certaines autres économies plus développées. C'est parce que il y a eu un ralentissement. Pourquoi justement? Parce que l'Australie on très connue pour déterrer des minéraux dans son sous-sol et de les vendre à un certain prix ailleurs. Mais peut-être on a un peu moins regardé à ce qui était possible de faire ici sur le terrain.
Ben, l'Australie depuis des décennies produit l'électricité à partir de charbon. Et depuis 5-10 ans, il y a une politique énergétique australienne qui vise à passer du charbon au renouvelable. Et à l'horizon 2030, le premier Albanese a confirmé la stratégie et l'objectif de passer à 80% de l'électricité australienne renouvelable, ce qui est énorme. C'est un objectif très ambitieux, mais ça booste vraiment le marché.
C'est faisable. Là, vous partez.
C'est ambitieux.
Vous partez. On peut en parler. C'est, ouais. c'est ambitieux. C'est faisable.
C'est ambitieux, mais plusieurs États sont en bonne route. Le Victoria a déjà fait beaucoup et continue à faire. Et les groupes français et franco-australiens dans l'énergie sont là pour ça, mm-hmm. pour développer les renouvelables.
On sait qu'en France, il y a une vraie culture du nucléaire. Mm-hmm. C'est quelque chose qui a été développé, entre guillemets, apprivoisé, en tout cas pour le domaine public. En Australie, pas du tout. Enfin, on commence à y réfléchir un petit peu. On sait que l'opposition aujourd'hui est en train d'en parler dans ses contre-budgets, etc. Mais on est en 2024 et c'est un balbutiement de discussion.
Oui. Alors effectivement, c'est une technologie qui a été, je pense, depuis l'incident de Fukushima, remise en question. Mm-hmm. Là, la tendance mondiale, c'est que, vous l'avez vu à la dernière COP, le nucléaire, pour la première fois, est reparti avec le vent en poupe. C'est-à-dire que d'ici 2050, beaucoup de pays ont des ambitions de relancer le nucléaire. L'Australie, c'est pas vraiment le cas et c'est un sujet un petit peu touchy.
Ouais, c'est tendancieux comme sujet. Hein.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des pour et des contre. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Et le schéma directeur de l'Australie en termes d'énergie n'a pas pour l'instant entériné le nucléaire.
D'accord. Là, si vous regardez un bilan en Australie depuis un certain temps, vous n'êtes pas encore parti, mais c'est peut-être l'heure de commencer déjà peut-être à faire un petit bilan. Vous êtes plutôt content. Il y a des choses que vous avez pu faire différemment. Il y aura des projets aboutis, des projets qui ne seront pas aboutis.
Alors, d'un point de vue professionnel, donc côté Vinci Energy, j'étais content de participer à des grands projets qu'on a fait, notamment dans le Victoria, sur une centrale solaire et un compensateur synchrone qu'on a installé pour Total Energy. Après, on a finalisé une acquisition d'une société qui fait des sous-stations électriques, donc c'est des termes un peu techniques, mais c'est on a Vinci Energy en Australie.
Faites-nous rêver.
Vinci Energy s'est bien développé dans les dernières années et on a fait des très beaux événements à Vinci Energy avec la ministre de l'énergie et l'ambassadeur pour ouvrir un centre de formation il y a quelques mois.
On y était d'ailleurs.
D'ailleurs,
on
merci à SBS. donc un bel événement pour un centre de formation. Ça, c'est côté Vinci Energy. Vinci continue de se développer en Australie et à travers le monde, à travers différentes acquisitions. Et d'un point de vue Facci, oui, un bilan, je suis assez content des années passées ici en Australie. Et puis un chouette bilan pour la Facci parce que... Avec Paul, qu'on a recruté en août 2021, je pense qu'on a fait un bon choix d'avoir quelqu'un de très efficace, performant et qui fait un travail exceptionnel.
Et les enjeux pour la Facci, justement, on va juste se concentrer un peu là-dessus. C'est quoi les enjeux de l'avenir? C'est bon, y a, bien entendu, je suppose que le nombre de membres est important, etc. Ouais. Mais d'un point de vue un peu plus large, les enjeux, c'est quoi? C'est de renforcer. On sait que, par exemple, à un moment ou un autre, la relation entre la France et l'Australie, elle a heurté un mur avec les fameux sous-marins. Bon, ça, il y a eu vraiment de l'eau qui est passée sous les ponts. On est vraiment reparti sur un nouvel élan. Il est là, l'enjeu, aujourd'hui, pour aussi la Chambre de commerce d'être un acteur de ça?
Je crois que sur cet incident, la Facci a su rebondir, parce que le Naval Group est un des membres de la Facci, parmi 450 membres. C'est un contrat parmi des milliers de contrats.
Ouais, il était gros quand même, ce contrat. Faut pas se voler la face quand même.
C'est vrai que ça, c'était un incident diplomatique, faut le dire. Mm-hmm. On n'était neutre dans cette histoire. Donc, On n'avait pas à se prononcer, mais on a su rebondir, pour développer d'autres industries. Et justement, par rapport à votre question des enjeux, c'est de recruter des nouveaux membres, mais dans d'autres industries. Donc, on est actuellement près de 500 membres, mais on va viser progressivement 550, 600 membres. À la fois, on a différentes catégories de membres, des patron members, corporate, SME. Et on tient à avoir cette diversité de membres pour que le réseau soit vraiment une belle mosaïque de sociétés franco-australiennes.
Et dans le nom, factice, justement, il y a le nom franco-australienne. C'est pas juste une chambre de commerce et de l'industrie comme on pourrait trouver à Montpellier.
Ouais.
C'est vraiment un autre rôle.
C'est vraiment le French Australian Chamber of Commerce and Industry. Et d'ailleurs, sous ma présidence, j'ai toujours insisté pour rappeler à tous les counselors et à l'équipe opérationnelle qu'on est là aussi pour servir les Australiens. Et dans les futurs counselors, on prévoit, et mon ou ma successeur aura aussi le besoin de recruter un ou plusieurs counselors australiens pour qu'on ait une représentativité des counselors français et australiens.
D'accord, vous avez toujours gardé un œil dessus, même loin, c'est...
Ah, oui, ce sera un plaisir. Et puis j'ai quand même beaucoup d'amis que j'apprécie. J'aurai mes deux filles qui seront ici pendant les prochaines années, donc je serai amené à revenir. Mais je garderai le lien franco-australien en France, puisque je souhaite rejoindre l'AFBA, Australian French Business Association.
D'accord.
Qui est l'équivalent de la FACHI en plus petit en France, qui est en fait présidé par l'ancien président fédéral de la FACHI, Franck Ruibuo, que vous avez peut-être rencontré quelques années. Et donc, j'aurai plaisir à faire perdurer cette relation entre la France et l'Australie, mais depuis la France.
Mais plus petit, ça veut dire que ça peut que grandir, donc c'est bien.
Voilà.
Merci Dominique.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Ce soir je sors enfin. Quand ma ville dort, je sors, putain. Je mets ma robe, on va s'en sortir.
Marika, et ce soir, je sors, tant mieux pour elle. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aujourd'hui, le Vegemite, c'est donc un produit ultra populaire présent dans quasiment toutes les cuisines. En revanche, lors de son lancement en 1923, les débuts sont un petit peu compliqués.
Effectivement, au début des années 20, ça n'a pas tout à fait marché. C'était un marché un peu niche, un peu restreint, parce que les gens ne connaissaient pas et que de toute façon, le produit phare, c'était Marmite. Voilà, si vous lancez une maison de champagne, je ne vais pas comparer la Marmite au champagne, mais ça peut être parfois un peu difficile de se faire un nom parmi les grands noms. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début des années 20 et des années 30, l'entreprise qui a lancé le Vegemite a fait des campagnes à la fois publicitaires et de marketing qui sont vraiment tout à fait contemporaines. Donc, en fait, le chimiste qui a créé la Vegemite, hein, il s'appelle Cyril Callister, et il était employé par un monsieur qui s'appelait Fred Walker, de la Walker Cheese Company, parce que le propriétaire était intéressé par faire du fromage d'usine et développer des pâtes à tartiner. Donc, il a embauché monsieur Callister. Et au début, comme on l'a rappelé, ça tourne pas très bien. Donc, ils organisent un concours pour nommer la nouvelle pâte à tartiner, faisant des pubs au niveau national en disant, voilà, vous pourrez gagner 50 pounds, 50 livres. À l'époque, c'est beaucoup d'argent si vous nous trouvez le bon nom. Et puis, dans le début des années 30, ils utilisent des coupons, en fait, qui sont distribués, ou si vous achetez des produits de la Walker Cheese Company, vous pourrez obtenir un pot de Vegemite gratuitement. Donc, en fait, en distribuant le produit devient de plus en plus populaire et devient un immanquable de la cuisine australienne, mais ce n'était pas gagné. Donc, c'est en distribuant le produit gratuitement, en utilisant les profits d'autres produits, que l'entreprise a créé ce marché, ce qui est une histoire assez, assez sensationnelle. Ce sont des procédés publicitaires qui sont usités dans les années 20, dans les années 30, que l'on pourrait trouver modernes, mais c'est le grand développement à l'époque du monde publicitaire. Hein. Donc, c'est pas tellement surprenant que ça. Effectivement, au début, c'est pas un produit qui cartonne, et puis petit à petit, à force de travail par l'entreprise, ça fonctionne. Au point que Vegemite est racheté assez tôt par Kraft, une entreprise américaine. Donc pendant la grande partie de ces 100 ans, en fait, la Vegemite est possédée par des actionnaires américains. C'est qu'en 2017 qu'elle revient en Australie.
Alors on a donc derrière cette marque l'inventeur d'un nouveau produit et un génie du marketing, si j'ai bien compris. Et donc après des débuts un petit peu difficiles, une campagne de com très efficace, le produit va finir par être carrément promu par la British Medical Association parce que c'est très riche en vitamine B. Et puis ce qui va finir de conquérir le public australien, c'est que le Vegemite va être intégré dans les rations des militaires qui participent à la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, en tant qu'historien militaire, ce qui est important, c'est qu'un soldat se sente bien. Hein, si, par exemple, l'armée américaine envoyait des glaçons par avion en Irak parce qu'avoir un coca frais, c'est un signe de situation contrôlée et que psychologiquement, c'est important. Et aujourd'hui, hein, dans le déploiement des troupes, ce qu'ils mangent, c'est extrêmement important pour maintenir le moral. Et donc, ce que je veux essayer de signifier, c'est que l'ajout de la Vegemite dès la Seconde Guerre mondiale en tant que faisant partie des rations, ça signifie quelque chose. Ça signifie que pour l'entrée en guerre, vous avez déjà une population australienne qui connaît la Vegemite, qui aime ça et qui en redemande. Et donc, il faut lui en donner. Et des pots de différentes tailles sont créés pour l'armée. Vous avez un gros pot qui est créé pour, disons, un petit régiment, et puis vous avez des pots un peu plus petits pour les soldats quand ils sont europos, et puis même des toutes petites dosettes, comme les dosettes qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans les avions, ou au McDonald's australien, hein, par exemple, aussi. Pendant un moment, ils faisaient ça. Des toutes petites dosettes au cas où voilà, vous soyez en situation de combat et vous avez besoin de votre Vegemite. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est extrêmement important pour le moral des troupes. Ce qui fait que pour les Australiens qui ne connaissaient pas, eh bien, ils deviennent, disons, pas accros, mais enfin, ils commencent à connaître ce produit et ça devient vraiment le produit, un des produits phares et les plus connus d'Australie dans les années 50, 60, 70 et encore aujourd'hui. Je veux dire, tous les Australiens vous parlent de Vegemite quand vous découvrez l'Australie. Ça fait partie des choses avec les kangourous, les koalas qu'il faut connaître sur l'Australie.
On va revenir sur la ville de Melbourne pour terminer, puisque c'est là que se trouve la seule usine au monde qui fabrique du Vegemite. Et la ville de Melbourne, l'an dernier, a inscrit cette odeur qui s'émane de l'usine et puis des pots de Vegemite et au patrimoine culturel immatériel de la ville. Donc on comprend que c'est un produit vraiment phare et même mythique pour les Australiens. En revanche, aucun succès à l'étranger. Il y a quelques personnalités célèbres qui en ont goûté, comme Barack Obama par exemple, qui a dit sans phare qu'il trouvait ça infâme. Et le groupe Bega, qui possède aujourd'hui donc la marque Vegemite, confirme pour sa part que plus de 90% des ventes sont réalisées ici en Australie. Pourquoi ça n'a pas du tout marché ailleurs qu'ici ?
Parce que c'est horrible. Non, mais plus sérieusement, c'est parce que c'est un produit culturel. Si vous ne grandissez pas avec, vous n'allez pas vous éprendre de la Vegemite à l'âge de 30 ans, 40 ou 50 ans. C'est pas comme un macaron où vous découvrez, ça vous plaît. C'est un produit, il faut vraiment grandir avec pour pouvoir l'apprécier. Donc, culturellement, c'est quelque chose d'assez répandu dans l'Empire britannique, hein, et encore une fois, dans les anciens dominions britanniques, comme je l'ai rappelé, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, évidemment, la Grande-Bretagne, en premier rang. Donc, c'est pas un produit qui s'est beaucoup exporté au 19e et au 20e dans d'autres espaces que l'espace britannique. Donc, c'est normal, si vous voulez, ça s'explique que ce soit pas un produit qui cartonne à l'étranger, dans la mesure où c'est un goût acquis très jeune. et que voilà, moi je pense que les pots qui se vendent à Paris ou en France par exemple, c'est souvent des pots pour découvrir ou pour dire j'en ai un à la maison, mais en réalité bien rares sont les Français que je connais qui raffolent du Vegemite.
Eh bien, merci beaucoup Romain Fati. Merci pour vos lumières sur donc cette étonnante pâte à tartiner qui résiste aux papilles de la plupart des étrangers. À défaut d'en manger plus, vous nous permettrez d'étaler aussi un petit peu notre savoir à ce sujet. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, et j'encourage tous les auditeurs à goûter, à essayer. Alors je n'ai pas d'option ou de stock option chez Béga, mais c'est quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas encore goûté la Vegemite, faites-le, ne serait-ce que parce que ça permet de découvrir un nouveau produit. Qui sait, peut-être vous aimerez. Et enfin, effectivement, l'histoire de la vitamine, ce n'est pas des bêtises. Il y a effectivement beaucoup de vitamine B dans les pots de Vegemite. Et donc, ça peut être une très bonne chose. Voilà.
Très bien. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire cachée d'Australie.
Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.
Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet à tout instant, sbs.com.au/French. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.